Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler des élections américaines. Ce n'est pas un sujet très original, mais enfin, c'est un sujet intéressant. On a dit beaucoup de choses sur les élections de mi-mandat qui viennent de se dérouler aux États-Unis. Essayons d'y voir clair, et pour cela, quittons les analyses au ras des pâquerettes, comme nous y sommes trop souvent habitués, car l'important n'est pas que les républicains aient eu la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les démocrates conservaient le Sénat. Ça, c'est l'épiphénomène. Non, l'important, c'est ce qui se passe dans les profondeurs de l'Amérique, et qui n'est pas sans analogie avec ce qui se passe en Europe. Jusqu'ici, les Américains vivaient sur un nuage. C'était l'hyperpuissance, surtout depuis la chute de l'URSS. Depuis 60 ans, ils dominaient le monde. Le signe le plus éclatant de cette hégémonie était la puissance du dollar, qui était une monnaie interne et en même temps servait de monnaie internationale. La planche à billets servait aux Américains à tout acheter dans le monde. La réserve fédérale faisait varier le cours du dollar en fonction des intérêts des États-Unis. Comme disait un économiste américain de façon cynique, « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Autrement dit, c'est le monde qui payait les caprices de l'oncle Sam. Cette situation idéale aurait pu perdurer si le 11 septembre, imputé de façon comique à Ben Laden, si le 11 septembre, donc, n'avait pas entraîné les Américains, poussés par les Israéliens, à commettre deux fautes majeures, l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Deux pays qui n'étaient pour rien dans les attentats en question, mais qui, pour le premier, disposent de métaux rares, et pour le second, de pétrole. Dans les deux cas, les Américains s'imaginèrent qu'il s'agirait d'une promenade de santé. Cela se révéla être des gouffres financiers. Le coût de ces deux guerres est estimé actuellement à 1 000 milliards de dollars. À cela est venue s'ajouter la crise. Un premier plan de relance de 800 milliards de dollars a été jugé insuffisant. La Fed s'apprête à injecter 600 milliards de dollars pour relancer la machine. Mais quelle machine ? En effet, comme l'Europe, les États-Unis, sous l'empire du néolibéralisme, ont laissé leurs industries filer dans les pays à main-d'œuvre à bas coût, en Chine en particulier. La relance par la consommation risque donc de se traduire par des achats supplémentaires en Chine, à Taïwan ou ailleurs, et par conséquent de creuser un peu plus un déficit commercial qui est colossal. Pendant ce temps, la Chine, le Japon, les Émirats et l'Arabie Saoudite sont assis sur des monceaux de dollars qui leur brûlent les doigts. Or, n'oublions pas que l'hégémonie d'un pays est toujours assise sur deux éléments principaux, son armée et sa monnaie. La prééminence française n'a été possible que par la réformation générale des monnaies, opérée par Louis XIII et par Richelieu. Elle s'est achevée au traité de Paris par la perte du Canada. La prééminence anglaise a entraîné celle de la livre sterling. Elle s'est achevée lors de la victoire en trompe-l'œil de 1945. Elle a été remplacée par la toute-puissance du dollar et de l'armée américaine. Mais ces deux facteurs sont en train de disparaître. Certes, nous n'en sommes qu'au début, mais il est révélateur de voir que la Chine dispute aux États-Unis leur hégémonie jusque-là incontestée. Mais quel rapport tout cela a-t-il avec les récentes élections ? Eh bien, c'est que les Américains, à qui les politiciens ont menti effrontément, comme chez nous, commencent à avoir peur. Peur de l'avenir, contrairement à leurs aînés qui étaient foncièrement optimistes, car ils ont peur du déclin. Peur que les emplois perdus aux États-Unis ne reviennent jamais et que le taux de chômage, qui est officiellement de 9,6%, mais qui est en réalité de plus de 20% si l'on tient compte des chômeurs de longue durée et des travailleurs à temps partiel, ne baisse que faiblement. Peur de la réforme de santé, qui ne produira ses premiers effets qu'en 2014, alors que les primes des compagnies d'assurance privée ont commencé à augmenter. Peur des saisies immobilières. On estime que 2 millions de maisons risquent d'être saisies cette année à l'issue de procédures plus ou moins irrégulières. Mais Barack Obama a refusé d'intervenir sous prétexte qu'un gel des saisies ne déstabiliserait encore plus le marché et les banques. Peur des classes moyennes de se sentir paupérisées, peur des blancs qui savent qu'ils seront minoritaires d'ici 20 à 30 ans. En face de cela, il y a un système américain bloqué qui ne propose que le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet, exactement comme chez nous, où nous avons l'UMPS. Certes, certains Américains commencent à se réveiller. Ils s'en prennent aux banques qui les ont ruinées. Mais il faut aller plus loin. Il faut s'en prendre au système lui-même, qui permet à une minorité agissante de posséder tous les pouvoirs depuis plus de 100 ans, pour les faire servir, non pas au profit du pays, mais au profit d'une tribu qui domine l'Europe comme les États-Unis. C'est eux qui ont voulu toutes les guerres dans lesquelles l'Occident s'est empêtré. Pour en sortir, les États-Unis, comme les pays du vieux continent, doivent donc commencer par se décoloniser. En auront-ils la force et la lucidité? C'est là tout le problème. Au revoir, mes chers auditeurs, au mois prochain.